Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur graphite94.9 et graphite.net. Je suis Stéphane Croza en studio avec Laura, Hugo, Inès, Nines, Barnabé et Lou. On est sur graphite pour, dans le cadre du cours de l'Université technologique de Compiègne, l'autéquisation et numérique. L'objectif de ce cours, eh bien, c'est de concevoir un outil ou service en s'appuyant sur un modèle dit de la l'autéquisation. Donc, on a largement travaillé dans le cadre de ce cours, un modèle qui s'appuie sur 9 grands concepts, 3 valeurs, la soutenabilité écologique, la responsabilité sociale et la convivialité technique, 3 leviers, imaginer, politiser, optimiser, et 3 tensions avec donc la croissance, le progrès et le consumérisme. On a vu 2 projets déjà précédemment, on a donc vu les projets Small is Beautiful, un projet autour de l'automobile, on a vu le projet Microscope, donc un projet plutôt au niveau de la pratique scientifique, et puis eh bien, nous allons aborder à présent avec Nines et Barnabé, le projet Notebook, un ordinateur qui dure 50 ans, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse nous parler de tout ça.
Merci beaucoup pour la présentation. On va donc parler du projet Notebook. Et donc l'objectif de ce projet est de concevoir un ordinateur portable capable de durer 50 ans. Pour cela, plusieurs questions se posent, en dialogue les unes avec les autres. Comment faire perdurer un objet aussi longtemps sans que les composants ne deviennent irréparables? Comment faire perdurer un logiciel modifié au fil des années et des besoins de chacun sans que l'objet matériel ne devienne obsolète, comme on l'a pu l'observer avec Windows 11 dont les demandes rendent impossible son installation sur des ordinateurs plus anciens? Comment vont se développer les communautés autour de cet objet, elles qui doivent être pensées pour durer un demi-siècle? Nous avons choisi d'aborder ce projet en proposant une description de la pile logicielle du notebook, concernant aussi bien son système d'exploitation, c'est-à-dire les programmes de fond sur lesquels s'imbriquent les logiciels, comme Windows ou Mac, que ses logiciels associés, mais aussi de ses périphériques, comme le clavier ou le micro, et enfin des communautés qui pourront résulter de la mise en place du notebook. Cela permettrait à tout type d'utilisateur d'y trouver son compte, mais plus spécifiquement aux chercheurs, journalistes et activistes qui composent le public visé par cet ordinateur. Pour ce projet, nous avons été suivis par Raphaël Kroumaik et Sébastien Rey Quariourc de l'Université de Rouen, membre du GT Notebook, un groupe de travail consacré à la réflexion autour du notebook de manière interdisciplinaire dans le cadre d'un appel à contribution lancé en 2021.
La première étape de ce projet a donc été de réaliser une veille d'information pour explorer l'état de l'art sur le sujet. Un texte qui a été très enrichissant, c'est un court essai nommé « The Computer Built to Last 50 Years » écrit par Lionel Dricot sous le pseudonyme de Plume en 2021 et disponible en ligne sur le site plume.net. Dans cet essai, il fait la proposition d'un ordinateur fait pour durer 50 ans en prenant en compte la fabrication, les usages possibles, la philosophie de développement et ses limitations. Un point important dans la conception de cette machine est le fait qu'on doit se passer de certaines fonctionnalités. On ne peut pas créer un ordinateur qui serait à la fois économe en énergie, produit localement, réparable et durable, et en même temps à la pointe de la technologie, avec nos standards de performance actuels, qui permettraient de faire tourner des jeux vidéo en 4K. Ainsi, nous devons repenser les usages que nous faisons de nos ordinateurs. Dans son essai, Plume propose de se limiter à lire des mails, des documents, des e-books, chercher de l'information sur le réseau et lire des blogs. Cela peut paraître peu, mais en réalité, la plupart du temps, nous n'avons pas besoin d'utiliser notre ordinateur à 100% de ses capacités. Il propose d'avoir des machines dédiées pour les tâches plus gourmandes qui seraient gérées de manière partagée et restant dans notre PC personnel à des fonctions plus sobres. Dès le départ, il définit ce nouveau type de PC en opposition à ce qui se fait actuellement, dans l'optique de se défaire des services dits propriétaires, c'est-à-dire des logiciels et équipements dont le code est privé et inaccessible pour les utilisateurs, et d'une logique d'économie linéaire, au sein de laquelle les objets sont simplement produits à partir de matières premières, vendus, utilisés, puis jetés. Il imagine un modèle plus libre et plus local. Il met par exemple en avant la philosophie du offline first, c'est-à-dire concevoir un ordinateur qui ne serait pas connecté au réseau en permanence. Plume imagine alors un PC qui se connecterait au réseau seulement quelques fois par jour, et met en avant le modèle de réseau pair à pair pour réduire notre dépendance au web. Grâce à cette proposition, nous avons pu définir plus précisément notre notebook. Il s'agirait d'un ordinateur portable qui serait capable d'accéder au web, qui permettrait d'écrire des documents textuels et de développer du code, en s'adaptant à la possible limitation des ressources en énergie et en connectivité. avec une pile logicielle plus sobre, voire minimale, utilisable hors ligne et de manière locale. Un aspect important de notre projet est le développement sous licence libre. Les plans du notebook, le code de son système d'exploitation et de ses logiciels seraient disponibles en libre accès pour tous les utilisateurs, avec la possibilité de les modifier et de les repartager. Cela nous paraît essentiel pour permettre aux usagers de s'approprier entièrement l'outil et de pouvoir en disposer à leur guise, le modifier selon leurs préférences et communiquer leur propre version. Donc, on va maintenant vous passer un extrait concernant la modularité du notebook. Et ensuite, je passerai la parole à Nines.
Now, modules are in software, they're in hardware, but they also are more abstract, as we'll come to see. So we'll just say that a module is some unit of functionality that has a well-defined interface with its context. So I'll take a very simple example of Windows. Every window is functional. You can open it or close it. It has certain structure, what its elements are. It has the behavior. It illuminates the room, but could also be used as a fire escape if you had to. Although the 14th century window there is probably not a good fire escape. And in fact, it has certain elements that they have. And if I look at that rather simple system, I try to identify its functionality, structure, behavior. And that window in the Gothic church has certain physical properties that's embedded in the wall. And that's very different from the more modern window you see there. And so modules themselves are just these units. And so what I'm really looking at is, what are the good properties of a module that really change it and make it something that leads to innovation? So I've broken these up into three groupings. We first start with this notion that if you have a true module, it can be independently constructed and then replaced at will, either by a new version from the manufacturer or a third-party upstart that tries to replace it. You might have extensibility, which we now know as add-ons, or there's an app for that. And you could also think about some modules that were developed in one context, and you want to use it in a totally different context that you would never.
L'extrait précédent est une conférence de George Heinemann qui a été donnée en 2014 et est disponible sur YouTube. Elle définit la notion de module ainsi que de ce qui est souhaitable dans un de ces 10 modules. Si vous voulez la retrouver, elle est disponible. Le notebook est, avant tout, un objet physique qui doit perdurer tout aussi longtemps que ses logiciels. Durant la veille d'information, un consensus avait été atteint par les recherches que nous avions lues. Pour une réparabilité maximale, une des solutions les plus simples est la modularité. Dans cette optique, les pièces du notebook peuvent être toutes facilement commandées et remplacées si l'une d'entre elles se casse, et de nombreux tutoriels sont disponibles en ligne, mais j'en parlerai plus tard. Nous avons donc concentré notre idéation matérielle sur cette notion. La modularité n'est pas limitée aux pièces internes du notebook, mais aussi à ses périphériques. Par exemple, le clavier. Lorsqu'on souhaite écrire en français ou en anglais, un clavier AZERTY peut être parfaitement adapté pour la situation. Ce, jusqu'à ce qu'on s'en serve pour de la transcription audio, dans quel cas un clavier vélotype peut être plus adapté. Dans le cas d'un ordinateur portable classique, le changement s'effectuerait soit par une reconfiguration, qui n'est pas idéale pour voir à quel symbole correspond chaque touche du clavier, ou en branchant un autre clavier à côté de celui de l'ordinateur, ce qui est encombrant et sujet à des problèmes de compatibilité. L'idée ici est de faire du clavier un choix à part entière. Plusieurs options seraient proposées par notebook, mais un écosystème plus vaste autour du notebook donnerait l'opportunité de se former lorsque ces options ne sont pas suffisantes. Cela permettrait à chacun de réellement personnaliser son environnement et de travail, son environnement de travail à ses besoins, comme avec un ordinateur fixe, mais tout en restant petit et léger. Cependant, la modularité des périphériques peut entraîner le notebook vers une participation accrue au consumérisme. L'option de changement de clavier est pensée comme utilitaire, mais rien n'empêche les tiers parties de l'écosystème de proposer des claviers différents à des fins esthétiques, et rien n'empêche les utilisateurs de collectionner ces claviers plutôt que de se limiter à ceux qui leur sont nécessaires. De plus, bien que le fait de pouvoir changer de clavier lorsqu'il casse permet de rallonger la vie du notebook, le clavier, lui, n'est pas plus recyclable qu'il l'était avant le notebook. Ce problème court à travers la notion même de modularité lorsqu'elle est appliquée au changement de pièces pour réparer un tout. On peut, cela dit, espérer que la quantité de pièces à jeter resterait tout de même inférieure à celle qui est à jeter, à jeter un ordinateur entier.
Une deuxième idée essentielle de notre projet est la possibilité d'utiliser le notebook dans un mini-réseau local sur le principe du peer-to-peer. Le peer-to-peer ou pair-à-pair en français, c'est une architecture de réseau dans laquelle les données transitent entre les ordinateurs des utilisateurs sans passer par un serveur central. Donc, ce système permet de faire transiter des fichiers ou de faire passer des flux multimédia, par exemple. Donc, voyons comment cela s'organise pour le notebook, à travers la phase de maquettage de notre projet, qui consiste en la rédaction de petites histoires pour décrire le fonctionnement de l'objet. Donc, prenons le contexte d'un Reaper Café qui constituerait une communauté locale d'utilisateurs du notebook. Imaginons la situation d'une réunion de l'association en présentiel. Donc, d'habitude, on utiliserait peut-être un Google Docs pour prendre des notes et Google Drive pour partager des fichiers. L'idée ici est de proposer un fonctionnement plus autonome qui ne dépendrait pas d'un service distant. Donc, je vais donc vous lire la petite histoire. Donc, Thomas, membre assidu du Reaper Café de sa ville et président de l'association locale des utilisateurs de notebook, organise une assemblée générale pour faire le bilan de l'association. Chacun apporte sa machine notebook lors de la réunion. Thomas connecte son ordinateur au projecteur et ouvre l'application serveur de son notebook. Il passe en son ordinateur en mode pair à pair et invite les autres à faire de même en utilisant le mode Bluetooth. Les membres se connectent peu à peu jusqu'à établir un mini-réseau où chacun peut communiquer avec tous les autres. Cette installation permet aux deux secrétaires de réaliser le compte-rendu de l'Assemblée Générale sur un pad commun, aux différents membres de diffuser leur production, les rapports, les visuels, à tous les autres grâce au système de partage de fichiers, et de visualiser les slides sur son propre écran si on est situé au fond de la salle. L'objectif de cette fonctionnalité est de limiter notre dépendance aux outils propriétaires externes en proposant des solutions utilisables à une échelle locale et auto-administrée. Elle s'inclut dans une perspective de convivialité technique. Les utilisateurs gagnent alors en autonomie en pouvant désormais définir les règles et le fonctionnement des outils qu'ils utilisent pour collaborer et ne sont plus dépendants des services comme vu précédemment. Cela encourage également le partage entre les utilisateurs, qui peuvent chacun proposer leur idée pour améliorer le système, tout en créant du lien social au sein d'un groupe. Ce modèle de communauté permet d'inclure tout type d'usagers de notebook qui souhaitent s'investir dans l'intégration de leur outil. Cette fonctionnalité de réseau est le fruit d'une optimisation technique pour faire en sorte qu'elle soit efficace et facile d'utilisation, mais elle est aussi une porte d'entrée pour imaginer de nouvelles manières d'employer les outils numériques pour se libérer du modèle actuel des outils propriétaires et centralisés. Donc pour donner un exemple plus concret de mise en place de ce type de communauté locale et des contextes dans lesquels ce genre de solutions décentralisées peuvent évoluer, on vous propose d'écouter désormais un extrait d'une interview de Pierre-Yves Gosset, directeur et délégué général de l'association Framasoft, tenue lors du Paris Open Source Summit le 13 décembre 2016, et disponible en ligne sur la chaîne YouTube du même nom. Il parle dans cet extrait du collectif Chaton, un groupe d'associations locales d'hébergement de logiciels en ligne.
Et donc pour lutter contre ça, voilà, on a décidé de sensibiliser le grand public à ces questions, notamment en montrant que le logiciel libre était la solution. Pour nous, ça, il semble que ça soit la seule, en mettant en place en fait, des alternatives aux produits de Google. C'est-à-dire, on a mis en place des alternatives, par exemple, à Google Doc, à Trello, à Doodle, à Facebook, etc. Et donc, quand on est arrivé à tout ça, on s'est dit, bon, c'est bien beau, nous, on l'a fait, mais comment est-ce qu'on fait pour que le grand public en profite. Et on s'est dit, on ne peut pas, nous, Framasoft, qui est une petite association, porter tout ça sur nos épaules. Et on a donc décidé d'impulser un nouveau collectif qui s'appelle Chaton, qui veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres, solidaires. Et cet acronyme est important puisque ça veut dire qu'on essaye de regrouper des gens qui ont des valeurs, qui font évidemment que du logiciel libre open source, mais qui surtout défendent une certaine façon de faire de l'hébergement, notamment en n'exploitant pas les données et la vie privée des utilisateurs.
Pour finir, on peut s'interroger sur les conséquences positives et négatives qu'aurait l'instauration du notebook comme alternative à l'ordinateur portable. Nous avons, entre autres, utilisé l'outil Empreinte Fantôme, proposé dans le cadre de la lotéquisation à partir des travaux de Guillaume Carnino. Afin de tenter de définir ses conséquences dans le temps et dans l'espace. L'empreinte fantôme a pour vocation de définir les effets qu'aurait un objet, une idée ou une technologie sur le monde autour d'elle selon plusieurs critères, dont quelques-uns dont je vais parler aujourd'hui. Tout d'abord, le cycle de vie du notebook qui est le premier outil de l'empreinte. Il s'agit de s'intéresser aux composants du notebook, de savoir si elles sont recyclables, compostables, etc. Le principe même du notebook est qu'il dure 50 ans, soit une durée de vie très longue pour un ordinateur portable, comparée aux 5-10 ans habituels, et il est également très réparable par essence, facile à démonter, et a des pièces facilement échangeables. Il est également un concept libre, ce qui encourage chacun à apprendre à réparer leur objet par soi-même, avant de remplacer ou racheter une pièce. Cela à travers des tutoriels, des vidéos et de la documentation disponible. Ce sont des effets positifs du notebook dans le cadre du cycle de vie. Cependant, il n'est pas compostable ou recyclable, tout comme ses éléments individuels, qui deviendront donc des échelles lors de leur casse et continueront à participer à la quantité toujours grandissante d'e-waste, déchets de technologie. De plus, il dépend de l'électricité secteur pour recharger ses batteries et s'inscrit donc dans la consommation grandissante d'électricité. Ceux-là sont donc des aspects négatifs du notebook sur le cycle de vie. Un deuxième outil de l'empreinte fantôme est la transition. Il s'agit de savoir si un objet permet de changer les usages, s'il permet de remplacer entièrement un objet passé, pour le meilleur ou pour le pire. Le notebook ne participe pas à une transition vers une société utilisant un nombre de technologies plus petit non plus. Il n'a pas pour vocation de remplacer l'ordinateur portable, mais seulement de proposer une alternative utile dans certains cas, pour certaines personnes. L'absence de lecture vidéo, par exemple, rendrait la transition vers le notebook comme ordinateur portable pour tous impossible. Il a donc des effets plutôt négatifs envers la transition. Le dernier outil dont nous allons parler est la prolétarisation. On entend par là l'effet de l'objet sur l'accès à la technologie et à la connaissance pour le plus grand nombre, dans les meilleures conditions. Pour le notebook, sa résilience aux situations externes permet un partage de la technologie et de la connaissance qui aurait été plus difficile avec un ordinateur portable. En effet, sa durée de vie longue entre les chargements signifie que l'accès régulier à l'électricité secteur n'est pas nécessaire pour l'utiliser. Et donc, il peut fonctionner dans des régions du monde qui sont beaucoup moins accessibles pour un ordinateur portable classique. Le téléchargement de textes, d'images et de sons permet aussi un accès à la connaissance basée sur une connexion unique à Internet, durant le temps juste nécessaire pour télécharger le contenu d'intérêt. Malgré ses bénéfices, le notebook n'est tout de même pas indispensable. Contrairement au téléphone portable ou à la voiture, qui aujourd'hui sont difficiles à ignorer, l'utilisation du notebook est entièrement volontaire, respectant les rythmes culturels et les libertés des utilisateurs. Tout cela lui donne un certain impact positif sur la prolétarisation.
Donc, en conclusion, le notebook tente d'apporter une alternative à la vision actuelle du numérique. Il se présente comme un outil différent, permettant des usages différents. Au cours de ce projet, nous avons pu aborder la question de la modularité, de la connectivité, des logiciels ou encore de l'interface. Mais de nombreuses pistes sont encore à explorer. Par exemple, nous n'avons pas étudié la question des spécifications matérielles du notebook. Quel processeur serait le plus adapté? Combien de mémoire utiliserait-il? De même, la question de l'organisation du collectif notebook est une perspective à explorer. Comment faire valider les discussions autour du notebook? Par qui est administré le forum? Comment créer un espace pour le développement d'alternatives? La problématique du mode de gouvernance constitue un axe important pour l'hypothétique concrétisation du projet.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Nines et Barnabé de nous avoir présenté leur projet notebook. Donc ce sera la dernière intervention pour aujourd'hui. Première question, je vous propose de faire la synthèse entre la question de Laura qui est en studio avec nous et celle de Chloé, pardon. J'hésitais avec celle de Nathan, mais elle viendra après, celle de Chloé. Laura pose la question des matériaux utilisés dans le cadre du notebook. Est-ce que vous envisagez des choses différentes de ce qui se fait usuellement là-dessus. Peut-être vous pouvez refaire le lien avec l'empreinte fantôme. Et puis, un petit peu dans la même lignée, Chloé à distance vous demandait si finalement il y avait des composants qui pouvaient être un peu privilégiés, c'est-à-dire est-ce que finalement avoir un ordinateur qui dure 50 ans, est-ce que c'est important que tous les composants durent 50 ans ou est-ce que justement, peut-être notamment à cause de certains matériaux en particulier, il y aurait des composants, des morceaux qu'il faudrait faire particulièrement attention, j'en sais rien moi, les batteries, l'écran ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous laisse réagir à ça.
Pendant la conception du projet dans le cadre d'IS3, on s'est surtout intéressé à la couche logicielle et à tout ce qui n'était pas le matériel du notebook. Du coup, je vais répondre à ces questions avec des pincettes sur exactement les données que j'ai et pas sur de la supposition. Pour ce qui est des matériaux, on a envisagé faire une coque en plastique recyclé. On n'a pas creusé du coup, cette idée spécifiquement parce qu'on s'est intéressé à tout le reste. Du coup, je n'ai pas de bonne réponse pour cette question. Et pour ce qui est des divers éléments, de même, on a eu des idées pour un écran de type e-ink, c'est-à-dire les écrans de liseuse, qui consomment moins d'énergie, mais qui aussi ont une durée de vie assez limitée au bout d'un certain nombre de rafraîchissements. Donc, je n'ai pas non plus de vraie réponse pour ce qui est de si on devrait privilégier un certain type de batterie ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, ce sont des questions qui, si jamais le projet serait concrétisé, serait au centre de la question pour réaliser un objet physique plutôt que juste une couche logicielle.
Oui, je précise que dans votre projet, vous êtes effectivement concentré sur les aspects logiciels, donc ces aspects matériels, vous les avez abordés, mais encore superficiellement. Alors peut-être justement pour mieux faire le lien avec la dimension logicielle, je vais faire je vais mutualiser les questions de Nathan et de Marion. Nathan, pareil à distance, et Marion à distance. Nathan demande comment concilier finalement les préoccupations que vous avez, c'est-à-dire même en admettant qu'on arrive effectivement à faire du matériel qui va bien, qui dure longtemps. Est-ce que ce n'est pas la dimension logicielle, l'évolution des logiciels, les standards associés, qui finalement finiraient par rendre obsolète le matériel ? Je l'associe avec la question de Marion, vous pouvez répondre à l'une, l'autre ou les deux. Et est-ce que finalement la course aux fonctionnalités qui est aussi portée par le logiciel, hein, vous avez parlé tout à l'heure, évoqué rapidement les jeux vidéo ou la vidéo haute définition, est-ce que ce n'est pas ça finalement qui risque de poser problème ? Et voilà.
Alors, je pense qu'il y a deux pistes pour répondre à cette question. En premier lieu, c'est quelque chose qui est important, c'est que même si, en effet, il y a certaines technologies qui avancent aujourd'hui très très vite, on a aussi des exemples de cas d'usage qui sont standards depuis des dizaines d'années maintenant dans l'informatique, certains formats de fichiers, certains formats d'encodage, etc., qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années et qui pourtant sont toujours utilisés aujourd'hui. Donc oui, en effet, on a un peu l'impression que ça va vite avec l'IA, etc. Mais il faut aussi se rappeler qu'on a aussi des exemples de choses qui durent longtemps. Et donc ça peut être des pistes à explorer, d'essayer de se concentrer justement sur des bases déjà existantes qui sont largement utilisées aujourd'hui. Et pour ce qui est de la question des autres usages qu'on ne pourrait pas faire, donc notamment jeux vidéo, regarder des films, etc. Quelque chose qui avait été proposé par Flume dans son essai et qu'on a un peu imaginé ensuite, c'était d'avoir par exemple des machines qui seraient dédiées, des consoles de jeux qui seraient mutualisées, on n'a pas besoin d'y jouer en permanence, donc on pourrait avoir une console pour un groupe et donc avoir moins de machines dédiées pour ces tâches-là et qui seraient partagées et qui seraient justement concentrées sur un usage précis plutôt que d'avoir des ordinateurs qui seraient capables de tout faire à la fois.
Alors, il y avait la question de Lou que j'allais prendre. Je ne sais pas si tu veux la poser. En fait, vas-y, pose-la à nous. Mais quelque part, Barnabé nous a donné déjà un élément de réponse avec la mise en commun. Mais je trouve que ça vaut le coup d'entendre ta question parce que c'est vraiment une des oppositions qui est souvent faite au fait de chercher à lothéquiser du matériel numérique. C'est cette question de l'empilement de la substitution.
Alors je me demandais si le fait que votre notebook ne cherche pas à remplacer l'ordinateur portable classique ne va pas le faire devenir un outil numérique de plus, une sorte d'empilement des dispositifs.
Du coup, c'était ce dont on parlait lors de l'empreinte fantôme sur tout ce qui était transition. Le notebook a vocation d'être utilisé par un certain public, c'est-à-dire que... Il est visé spécifiquement pour les journalistes, les activistes, les chercheurs. Donc, on a conscience que, l'environnement technologique d'aujourd'hui, concrètement, ce ne serait pas vraiment possible d'avoir un ordinateur portable utilisé par tous les jours, qui n'a pas de streaming vidéo sur lequel on ne peut pas aller sur YouTube, etc. etc. Donc c'est quelque chose qu'on a considéré et qui paraissait comme intégrant au projet dès le début, le fait que la grande majorité de la population ne remplacerait pas son ordinateur portable par un notebook.
Mais néanmoins, Barnabé nous avait donné quand même une clé précédemment dans le fait de mettre en commun. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait aussi imaginer que pour faire des jeux vidéo modernes, pour utiliser des IA ou pour regarder effectivement de la vidéo, on pourrait aller finalement peut-être dans une salle de cinéma ou dans un espace commun, dans une propriété qui permette d'ouvrir ces différents éléments. Donc la mise en commun pourrait être une façon de spécialiser, comme vous le proposez, sans pour autant forcément empiler et ajouter, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. En fait, il faut un peu garder à l'esprit que on va devoir faire des concessions si on veut utiliser cet ordinateur-là. Il y a des choses qui vont être potentiellement rendues plus difficiles. On va avoir peut-être moins d'accessibilité sur certaines choses. Il va falloir plus s'organiser. Si on mutualise des outils, il faut mettre en place un planning, de savoir qui utilise l'outil quand. Et donc, bien sûr, ça va demander des efforts supplémentaires. mais si du coup c'est pour entrer dans cette logique-là de changer le numérique pour le rendre meilleur.
Ouais, et puis là, vous êtes, je pense, hein, vous êtes au cœur de ce qu'on a essayé d'explorer avec la low-techisation, qu'on a opposé aux technosolutionnistes. Il ne s'agit pas de dire on va remplacer des outils numériques qui posent des problèmes par d'autres outils numériques qui font exactement la même chose, mais qui ne posent pas de problème. Et comme tu le dis, eh bien, il y aura des choix, des modifications. Alors peut-être la modification de mode d'usage de ce qu'on fait avec. Peut-être que la dernière question, pareil, fait pas mal le lien avec ça. Vous avez passé un extrait de Pig qui nous parlait du collectif Chaton, du programme Dégooglisons Internet. On pourrait imaginer, effectivement, alors ce qu'il y a d'intéressant dans ces outils aussi, hein, c'est que quand on change et qu'on passe sur ces outils proposés notamment donc, par l'association Framasoft et le Chaton, eh bien, on voit que ça ne fonctionne pas exactement pareil. Donc parfois, on perd effectivement une certaine praticité. Mais bon, malgré tout, ce qui est assez intéressant avec cette expérience, ça marche pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de... pourquoi est-ce qu'on aurait pu créer un tel chaton à l'UTC peut-être ou à Compiègne pourquoi est-ce que les étudiants ne se mobilisent pas pour offrir de tels services?
Eh bien, ça existe déjà à l'UTC. Il y a une association qui s'appelle Picasoft, qui fait partie de ce réseau des chatons et qui propose des outils... libre et gratuit sur son site internet pour être utilisé. Notamment là, j'ai mes notes qui sont hébergées sur un document sur Picasoft. Et donc, ces outils-là fonctionnent différemment. Il y a certaines choses qui fonctionnent pas exactement pareil, mais au final, on s'y fait très vite et ça permet de très très vite remplacer, on va dire, les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser avant. Et parfois même de découvrir de nouveaux usages, de nouvelles manières de s'en servir. Et c'est ça qu'on trouvait très intéressant dans cette démarche-là.
Merci à tous les deux. Merci Nines, merci Barnabé, merci vous toutes et tous ici en studio et à distance. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous salue. On vous dit au revoir pour cette semaine. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, accéder à partir de l'onum.fr. Ce sera en ligne sur aperi.tube, un service alternatif à YouTube hébergé justement avec Framasoft. Et rendez-vous la semaine prochaine donc pour 4 autres projets. On ira dans le domaine de l'agriculture avec les projets Agribot et e-agricole. On verra avec le CEA comment pousser des technologies low-tech dans les grosses organisations. Et puis, on abordera le projet Stop Méga Projet qui prendra le contexte du canal Seine-Nord Europe pour imaginer quel type d'alternative on peut imaginer à partir de, encore une fois, des concepts de la low-techisation. Merci à toutes et à tous. Et donc, je vous propose qu'on se quitte avec HK et Danser Encore.
Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Passer nos vies sur une grille.
d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 on veut continuer à danser. Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh,
passer nos vies sur